voilà, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes Radio Galère, en compagnie de Sofiane Dissot, qui assure la technique aujourd'hui, je le remercie. Vous savez qu'on a toujours dans l'effectif des salariés de Radio Galère un homme de la technique que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais qui est dans tous les branchements, dans tous les fils, dans tous les raccordements, dans tous les conjoncteurs, c'est lui. Voilà. Et aujourd'hui, il est dans la cabine technique.
C'est Sofiane.
Voilà, c'est Sofiane. Merci Sofiane. Et puis bien sûr, je salue Roselyne et Habib qui sont avec moi dans le studio pour cette émission.
Heureusement qu'on a Bernard.
Pourquoi ? Voilà. Alors je vais commencer par une annonce, puisqu'on a à la radio a reçu un coup de téléphone des animateurs de la ZAD de Pertuis. ZAD de Pertuis, donc, qui est organisée autour de la disparition annoncée de 4 agriculteurs dont les terres devraient être utilisées dans un projet officiel pour étendre la zone industrielle ou la zone artisanale de Pertuis. Bon, donc l'expulsion est en cours. Ce sera donc, si ça continue et que ça n'aboutit pas à leur revendication, la diminution du nombre d'agriculteurs sur le territoire national. Et comme ça, on pourra continuer à vous parler. Consommez local, produisez local, etc. En attendant, on bétonnera des terres. Hein. Vous savez que les contradictions dans le discours sont massives et permanentes. Bon. Et donc, surtout pour vous dire, et c'est pour ça qu'on fait l'annonce dans le cadre de notre émission, qu'il y aura ce soir à 18h un rassemblement de soutien aux zadistes sur un rond-point à Pertuis dont le nom... Roselyne, là,
au
sur
rond-point Hérébien, avec l'hôtel Ibis.
Voilà, bon, ça doit être connu des habitants des environs de Pertuis. Voilà. Ceci étant fait, pour pas qu'on oublie en fin d'émission. Et donc, effectivement, c'est bien. Enfin, je dis, on a, parmi les contradictions nombreuses, on a l'Union européenne qui, soi-disant, lutte contre la pollution énergétique, et puis l'Allemagne qui vient d'annoncer qu'elle allait rallumer ses centrales à charbon comme une folle. Hein, vous savez qu'en plus, le charbon allemand, c'est de la lignite, c'est un charbon de mauvaise qualité, donc qui pollue beaucoup, qui fait beaucoup de poussière. Mais, évidemment, pour faire de la peine à la Russie, on est prêt à faire n'importe quoi et à empoisonner, les poumons des citoyens allemands. Et je vous signale qu'aussi, à cette occasion, puisqu'on en parle, quand dans les périodes de pointe de la consommation d'électricité, donc entre, disons, mi-novembre et début janvier, il y a des périodes de pointe de la consommation d'électricité, les pays de l'Union européenne échangent l'électricité. Celui qui en a un peu en trop l'envoie à celui qui en a un peu pas assez. Et à ce moment-là, la France n'hésite pas, elle le fait d'ailleurs, à acheter de l'électricité allemande produite avec du charbon. Alors, en fait, tout ça rentre dans un discours politique où on nous dit qu'on décarbone, de temps en temps, au moins dans les discours. On a beaucoup de discours décarbonés.
C'est des sous-serres.
Oui, voilà. Bon. Ça, c'était des premières petites annonces et des petites remarques incisives pour commencer. Et puis, un rappel, vous allez pouvoir trouver sur le site de Radio Galère le podcast d'une émission que nous avons réalisée ce matin. Et j'en parle tout de suite, puisqu'il s'agit d'une interview de monsieur l'ambassadeur de Cuba en France, que j'ai réalisée, donc, c'était vendredi dernier, dans l'hôtel où il se trouvait et où il m'a accueilli, pour parler de la visite qu'il avait fait donc, la journée du jeudi 23 à Marseille. Visite assez complète, puisque c'était une visite... J'allais dire non officiel, il n'a pas été ni reçu par le préfet ni par le gouverneur militaire de Marseille, mais il a été reçu par la Chambre de commerce pour parler échange économique. Il a été reçu par la mairie de Marseille, à savoir par madame la première adjointe Michèle Rubirola et par l'adjoint à la culture, monsieur Jean-Marc Coppola,
ouais.
Avec l'idée de lancer un projet de jumelage de Marseille avec la Havane. Alors, je dis un mot sur les jumelages. Les jumelages, c'est un système qui est organisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au sein d'un organisme qui s'appelle la Fédération mondiale des villes jumelées, dont l'objectif était de créer des liens entre les populations d'une ville à une autre et donner lieu à des échanges de simples citoyens pour qu'il y ait une connaissance qui ne soit pas seulement une connaissance au sommet entre grands voyageurs, grands intellectuels, grands hommes politiques, mais qu'il y a y compris des petits villages ou des petites villes de France qui sont jumelées, qui a une commune italienne, qui a une commune allemande et tout. Et donc c'est ça le principe des jumelages, ce qu'on appelle c'est des rencontres décentralisées, hein, des citoyens de différents métiers, de différentes spécialités, d'équipes sportives et tout, d'une ville à une autre, s'échangent. Alors une fois, une année, c'est dans un sens, l'autre année, c'est dans l'autre sens. Bon, la ville de Marseille a de longue date, dès le début de ce système des villes jumelées, mis en place des jumelages avec des villes portuaires, très nombreuses, puisque Marseille est jumelée, je le rappelle de mémoire, je ne sais pas si je suis exhaustif, mais
je l'ai sous les
voilà,
yeux.
Avec Dakar, avec Abidjan, avec Kobe, avec Odessa, avec Hambourg, et j'en oublie sans doute.
Anvers, Copenhague, Gênes.
Voilà, Gênes aussi. Voilà.
Le Pirée, Shanghai.
Voilà. Donc, vous voyez, un large choix. Et il manque encore d'ailleurs un pays d'Amérique latine. Et donc le projet qui est lancé, donc de jumelage de Marseille et du port de la Havane, qui est aussi la capitale, mais c'est un port, est en cours. Donc ça serait un nouveau jumelage.
Qu'est-ce que ça donne comme avantage?
Alors ça ne donne pas des avantages. Ça donne des avantages, c'est-à-dire ça fait connaître des populations. Il y a des délégations d'un port qui vont dans un autre. Il y a des délégations de scientifiques. Il y a des équipes de basket, etc. Un jumelage, ça sert à toutes sortes de rencontres, des différents niveaux d'activité dans la société. Voilà. Ça peut être aussi bien des chercheurs que, je vous dis, des joueurs de pétanque. Je ne sais pas si on joue à la pétanque. Je crois qu'on joue plus au baseball qu'à la pétanque, à la vanne. Mais voilà, tout est possible. Ça peut être des rencontres d'artistes. Voilà, l'échange entre villes jumelées est un échange entre les populations sur tous les types d'actualités qu'elles exercent.
Bon,
donc on ne peut que souhaiter que la Havane soit le premier port d'Amérique latine à être jumelé à Marseille, grande ville portuaire comme chacun sait. Et puis il a aussi rencontré, donc, et il le dit dans l'interview, la CMA, donc, qui est une grande compagnie maritime, mais qui a cette particularité que, malgré l'embargo, la CMA a un petit porte-container qui, à date régulière, va dans un port de Cuba, qui s'appelle le Puerto Mariel, je dis son nom, c'est pas la Havane, à partir d'un service de la CMA qui fonctionne dans la zone des Caraïbes. Bon, donc ça, c'est notable. Il avait rencontré, et c'est normal, puisque le Parti communiste cubain est au pouvoir à Cuba, il avait rencontré une délégation du Parti communiste français ici. Il a fait une longue interview dans la Marseillaise, qui a fait à peu près une page entière dans la Marseillaise du vendredi, donc du 20, ou du samedi. Et il est même allé au Mucem. Enfin, il a fait une visite assez complète de Marseille, de ce qui s'y passe d'intéressant. Et donc, il a mis en place un climat de relations entre Cuba et notre ville qui est intéressant à poursuivre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a accepté notre demande modeste de l'interviewer, ce qui a été fait.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un embargo de plus de 50 ans.
Exactement, 60 ans d'embargo. Et donc, effectivement, tous les liens qui sont possibles horizontaux, disons à la base, sont importants puisqu'ils permettent, et je l'ai rappelé,
effectués par les Américains et les Occidentaux.
Voilà, et les populations, que ce soit... Alors, il y a une petite communauté cubaine à Marseille, mais il y a d'autres gens qui se préoccupent de faire passer donc de la marchandise. De l'argent, c'est très difficile, puisqu'on ne peut pas envoyer de l'argent à une famille cubaine. Les banques françaises ne le font pas. Il faut trouver des circuits particuliers. Vous savez, par exemple, je l'ai dit dans l'émission, mais je le redis, qu'à un moment donné, Cuba n'avait pas de Doliprane. Et comme ils n'en fabriquent pas, alors ils sont capables de fabriquer des vaccins contre le Covid, mais ils n'ont pas d'usine de Doliprane. Il y a un problème de brevet en plus de Doliprane. Donc la firme qui a les brevets ne veut pas leur céder, bien entendu, on connaît tout ça.
Et donc, voilà.
Et donc, ils étaient en panne de Doliprane. Et il fallait que ce soit des aides extérieures, des citoyens d'ici ou de là, qui leur envoient du Doliprane parce qu'ils n'en avaient pas. Alors, ils étaient en même temps en capacité scientifique, technique et industrielle de fabriquer des vaccins. Ils n'en ont pas un, ils en ont trois et un quatrième en cours d'homologation contre le Covid. Et ils n'avaient pas de Doliprane. Bon. C'est ça, la solidarité au niveau le plus élémentaire. Et il rappelle, monsieur l'ambassadeur l'a dit dans l'interview, qu'ils avaient les vaccins, mais comme ils n'avaient pas d'usine de seringues, ils ont été obligés de faire appel à la solidarité internationale pour recevoir des seringues. Voilà. Alors on en est à ces paradoxes-là. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une recherche scientifique de pointe, vous pouvez avoir des industries, des laboratoires de pointe, et un ennemi, votre ennemi déclaré, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, vous empêche d'administrer les vaccins que vous êtes en capacité de fabriquer parce que vous n'avez pas accès aux seringues. Voilà, c'est ça, hélas, la vie quotidienne et la vie des gouvernants de Cuba depuis 60 ans d'embargo.
Un jour ou l'autre, les Américains vont subir cette économie qu'ils ont restreinte.
Tout à fait.
Et ils vont tomber bas, moi je vous l'ai dit.
Tout à fait. Voilà, donc cette émission donc, est en podcast sur le site de Radio Galère depuis ce matin. Ça s'appelle « Comaguerre spécial Cuba ». Voilà, donc vous pouvez l'écouter. Voilà. Passons à l'actualité de plus large. Plus large, alors il s'est passé, on est dans la période des sommets. Tout ça, on est à la fin du premier semestre. La situation internationale, alors, c'était un peu tendue, un peu compliquée. Et c'était l'occasion, d'ailleurs, les dates n'ont pas été modifiées beaucoup, mais l'occasion de toute une série de sommets. Alors, il s'en tenait. Et il y a eu le sommet du G7, dont vous avez entendu parler, qui n'est pas tout à fait fini. Il y a eu le sommet de l'OTAN, ouais, qui est en cours aussi. Il y a eu le sommet des BRICS, qui est fini, mais qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a eu un autre sommet dont vous n'avez pas entendu parler, mais dont je parlerai, qui s'appelle le sommet de Intermarium. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet étrange ? Alors, je vais commencer par lui. Je vais commencer par lui parce que vous n'en entendrez pas beaucoup parler. Et en même temps, il est intéressant dans les questions touchant l'avenir de l'Europe. C'est une vieille idée. Alors, c'est une idée, Intermarium, de relier les deux mers. Alors, relier les deux mers, lesquelles ? Bon, alors, si vous regardez la carte de l'Europe, il y a un endroit qu'on appelle l'Isthme, c'est un peu excessif comme appréciation, mais qui, partant de la Baltique, va jusqu'à la mer Noire. Et on dit là, effectivement, il y a une distance, je crois qu'il y a 2000 km à peu près, il y a un isthme, il y a un endroit où l'Europe est un peu pincée entre la Baltique et la mer Noire. Bon. Et il y a une vieille idée, c'est de rassembler les pays qui sont le long de cet axe et d'en faire une espèce de bloc qui ne serait ni le bloc occidental, donc France, Italie, Allemagne et tout, ni le bloc, disons, russe ou russophile de l'autre côté. Et donc, surtout, de s'organiser en bloc. Alors, ce n'est pas tellement contre la partie occidentale de l'Europe, mais c'est surtout s'organiser en bloc contre la Russie, à l'évidence. Bon. Alors, c'est une vieille idée qui est remise un peu sur la table maintenant, histoire de tirer la langue à la Russie. L'objectif est tout à fait clair. Et donc, le sommet de cette organisation a eu lieu à Riga, donc en Lettonie, la semaine dernière, avec des grandes ambitions. Ces ambitions n'iront peut-être pas très très loin, mais c'est le moment où ces pays-là sont soutenus, disons, par les États-Unis pour dire « Allez-y, ça complique encore la situation en Europe, ça divise l'Europe, et plus l'Europe est divisée, j'aimerais que tous les auditeurs qui sont pro-européens, plus l'Europe est divisée, plus les États-Unis s'en réjouissent.
Hein. » Ah, c'est sûr.
C'est ça le fond du problème. Hein. Ah, oui. Bon, et elle est copieuse. Copieusement divisé. Alors, si on ajoute cette division supplémentaire avec des gens très, très énervés du point de vue de la russophobie, je veux parler des Polonais, je veux parler des Lituaniens, à un moindre degré, les Tchèques, mais c'est pas mal non plus.
L'Estonie.
Voilà. Donc, vous avez un bloc de pays très anti, très russophobes, globalement. Je mets à part, bien qu'il soit dans le bloc, la Hongrie, qui est un peu atypique dans cet ensemble, mais tous les autres sont franchement russophobes. Voilà. Et donc, ça ne peut que ravir les États-Unis et ça ne peut que compliquer la compréhension entre les peuples.
De toute façon, le fait de fournir des armes aux Ukrainiens, c'est déjà...
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Malheureusement, ils favorisent encore le feu. Voilà, tout à fait.
Voilà, donc ça, le sommet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui n'est pas très important parce que je pense que ça n'ira pas très loin, c'est simplement de l'huile sur le feu ukrainien qui est rajouté par les États-Unis avec quelques candidats qui sont toujours prêts à faire ce genre de travail, les Polonais en particulier. Enfin, j'accuse pas le peuple polonais, mais les gouvernants polonais, d'une façon générale, adorent jouer avec le feu anti-russe. C'est une vieille tradition historique. Et ils en retrouvent quelques autres. Et puis en ce moment, la direction actuelle de l'Ukraine ne peut que se satisfaire de cette action. Alors je parle de direction actuelle de l'Ukraine car on voit de plus en plus de témoignages de l'isolement de l'équipe Zelensky, c'est-à-dire lui et quelques autres, et puis ceux dont on ne connaît pas les noms mais qui sont dans la coulisse et qui tirent les ficelles. Donc je veux parler de l'ensemble de la mouvance fasciste ukrainienne. Il faut savoir qu'il ne reste que ça comme gouvernement de l'Ukraine, puisque Zelensky, après avoir interdit le Parti communiste, l'ennemi historique, a interdit tous les autres partis d'opposition. Il n'y a plus d'opposition politique en Ukraine. Et il n'y a plus qu'une équipe, un gouvernement où il y a quelques personnages. Quelques-uns changent. D'ailleurs, ils viennent changer le chef des services de renseignement. On ne sait pas pourquoi. Mais il s'agit d'une équipe très, très restreinte, qui est donc très dépendante des consignes de l'extérieur, on l'a compris, qui est très, très dépendante de l'extérieur pour la fourniture en armes et qui gère une armée dont les jours sont probablement comptés.
Puisque... Aujourd'hui, d'ailleurs...
Oui.
Tu peux me permettre.
Vas-y, bien sûr.
Aujourd'hui, d'ailleurs, Poutine, il a promis, enfin, il a dit, si vous voulez, moi, j'arrête la guerre en une journée, j'arrête tout, à condition que l'armée ukrainienne nazie dépose les armes.
C'est tout, voilà, c'est voilà. Ça. Voilà. Non, et là, c'est tout à fait clair, parce que l'expérience historique a montré que les promesses et les paroles du gouvernement ukrainien, celui-là et au moins le précédent, celui du monsieur Porochenko, ne tenaient jamais leurs promesses verbales.
Ah, exactement. Bon, hein.
Et ne tenaient même pas leurs promesses écrites.
Ça fait plus de 8 ans qu'on est en guerre.
Et que les accords de Minsk, qui ont été signés par deux fois la version 1 et la version 2 par les gouvernements ukrainiens successifs, n'ont jamais été respectés. Et on déplore, je le déplore et je le redirai autant de fois que nécessaire, que la France et l'Allemagne, qui étaient garantes de ces accords, aient laissé l'Ukraine ne pas respecter sa signature en permanence. Donc, et obéit en fait aux consignes des États-Unis qui disent « on veut que ce conflit continue ». Alors, il a tellement continué qu'il en est arrivé au point où on en est aujourd'hui. C'est tout à fait clair. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je ne savais pas ce que disait Habib, là, que le président russe avait dit que c'était tout à fait possible. Il faut effectivement... Alors, ça avait été dit, d'ailleurs, dans les premières réunions. Vous savez, tout au début du mois de mars, on a agité l'espoir d'une signature, d'un accord d'armistice, au moins. Et puis, dans les délégations donc, qui s'étaient retrouvées, je crois, à Istanbul ou à Ankara. Je crois que c'était Ankara ou à Istanbul, peu importe, en Turquie. Alors, la délégation de Zelensky, je vais faire simple, même pas appeler ça une délégation ukrainienne, la délégation du gouvernement Zelensky tenait des propos assez favorables à un cessez-le-feu et à des règles quand elle était en Turquie, et rentrée à Kiev, elle avait oublié. Donc on ne peut pas travailler, ce n'est pas possible d'arrêter une guerre avec des gens qui n'ont pas de parole.
C'est vrai.
Et donc la condition qui est posée, c'est de dire, vous déposez les armes, la guerre est finie. Alors de toute façon, la guerre est assez proche de sa fin, dans la forme qu'elle a actuelle. C'est-à-dire que si on regarde concrètement au jour le jour, c'est tout à fait possible aujourd'hui, après les débuts de la censure dans les premières semaines, si on regarde la situation, l'armée russe et l'armée des deux républiques désormais indépendantes est en train de prendre au piège d'une espèce de nasse ce qui reste de l'armée ukrainienne, et pratiquement à quelques dizaines de kilomètres près, la nasse est presque fermée. La ville de Severodonetsk, elle est tombée déjà. Celle d'à côté, Lichyansk, c'est en cours. Et donc, effectivement, il ne reste plus là que quelques unités de l'armée ukrainienne qui, à l'échelle, je pense, de quelques jours, ne pourront même plus se replier. Donc, de toute façon, elles seront condamnées à se rendre ou à mourir au feu si elles n'ont pas ou si on ne leur laisse pas d'autre choix. Donc, cette partie-là de la guerre va probablement s'achever. Ce qu'on sait des pertes de l'armée ukrainienne dans les combats actuels est très très important, c'est-à-dire au moins 1000 hommes jour. Donc vous voyez un peu les effets. Pas de renouvellement puisque les circulations sont difficiles.
Putain, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Oui, ça fait presque 7000 par semaine. Ouais, c'est énorme. Bon.
Ça fait c'est terrible.
Oui, c'est 30 000 par mois.
Pourquoi
ça fait 4 mois. Mais on en est à ces échelles-là.
Déposer les armes, faire la paix.
C'est 1000 jours. Les pertes de l'armée ukrainienne, c'est 1000 hommes jour aujourd'hui.
Mais on compte les Ukrainiens, les mercenaires.
Non, de l'armée, enfin, l'armée, ce qu'il y a autour. Oui, les gens qui combattent.
Bon, de toute façon, il y a un peu de tout.
Voilà. Non, mais les gens qui combattent. Je ne parle pas des civils qui prennent un coup de travers.
Il y a des Libyens, il y a des...
Oui, il y a des tas de personnes.
Des terroristes syriens, il y a des tout.
Mais il ne va plus rester beaucoup d'Ukrainiens, au final.
Alors, si on parle de la population ukrainienne, c'est un vieux sujet. Enfin, je veux dire, c'est un vieux sujet. Parce que...
On nous donne des chiffres.
Voilà, on nous a, dès le mois de février, à la fin février, le premier jour de mars, on nous a dit, les Ukrainiens s'en vont par millions, par millions.
Bon,
alors, en fait, quand on regarde, ce qui c'est très facile à faire, et qu'on a l'honnêteté, qu'on prend le temps de le faire, les statistiques tenues par l'ONU, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, des années entre l'indépendance de l'Ukraine, 1991, et 2021, l'année dernière, donc en dehors du conflit actuel, le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, c'est de l'ordre de 10 millions. C'est-à-dire que c'est un pays qui est passé de 52 millions à 40, et peut-être moins.
Ah oui, ils ont dit 40, oui.
Voilà. Donc c'est ça. Donc la fuite de la population ukrainienne qui a quitté son pays, c'est pas parce qu'il y avait l'armée russe, c'est parce qu'il n'y avait plus à manger. C'était ça le problème. C'était que cette économie s'effondrait et qu'elle était tenue par des gens qui s'enrichissaient sur le dos de la collectivité et qui n'avaient pas d'autre souci du bien de la collectivité, qui s'appellent les oligarques, qui fuient d'une région ou d'une autre. C'était clair. Et donc pour la population qui observait, parce qu'en Ukraine, il y avait une éducation, il y avait des écoles et tout, la population qui observait voyait bien que les gens qui gouvernaient le pays ne s'intéressaient pas au sort du pays, ils s'intéressaient à leur sort personnel. Il y a une liste de milliardaires ukrainiens qui est ahurissante. Ils sont connus, ils ont souvent 2-3 passeports, un à Chypre, un en Israël, mais il n'y a pas de gouvernement, enfin, il n'y a pas, depuis 1991, un seul gouvernement ukrainien qui se soit inquiété du sort de son peuple, c'est tout, et encore moins le dernier.
Bon. Les sionistes.
Voilà, et c'est ça, voilà, en plus, c'est ça qu'il faut dire. Alors, en plus, ben, c'est vrai, on a beaucoup ironisé, mais ça, le piège ne prend plus. C'est-à-dire, M. Zelensky est d'origine juive. Bon, ben, c'est bien possible.
Bon, voilà. Il l'a dit lui-même. Voilà,
il l'a dit lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous dites, je suis d'origine juive, donc je suis un gentil garçon.
C'est un peu comme les nazis qui se trouvent là-bas aussi.
Oui, oui.
On ne sait pas d'où ils viennent.
Comme si le fait d'être de religion juive, ça supposait qu'on ne peut pas être méchant. Il y a des méchants sous toutes les latitudes, dans toutes les religions. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, on nous a raconté beaucoup de choses. Bon, donc, pour la situation ukrainienne, je pense que militairement, il n'y en a plus pour très longtemps. Après, il va falloir que les gens qui conseillent M. Zelensky, parce que tout ce qu'il dit, il ne le dit pas tout seul. Il est programmé, ce monsieur.
Ah ouais,
c'est un comédien qui apprend des textes, qui les récite d'ailleurs avec un certain talent de comédien, mais il apprend des textes qu'il n'écrit pas lui-même. Bon. Et donc, les gens vont devoir dire « Maintenant, il faut que tu négocies. » Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, puisque à telle enseigne qu'on en parlait à propos du G7, il y a eu donc une espèce d'altercation entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait... il a certains instants de lucidité, quitte à être aveugle l'instant d'après. Ça fait partie du personnage. Donc, sa versatilité est connue et observée et reconnue par la majorité des électeurs de ce pays. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Il avait dit qu'il ne faudrait peut-être pas humilier la Russie. Alors, c'était même gentil parce qu'il savait, parce que l'état-major français est très au courant. Il y a même des publications à l'extérieur de la France qui disent « On a regardé les chiffres sur la campagne d'Ukraine sur le site de l'état-major de la France. Les données sont bonnes. » Donc Macron peut les lire tous les matins s'il a envie. Il sait très bien où en est l'opération historique en tant que telle et qu'elle n'a pas d'avenir. Bon. Donc il avait trouvé un discours intermédiaire. Il ne faut pas humilier la Russie.
Je crois que Macron, c'est le patron de Zelensky. Hein. C'est le même comédien.
Oui, alors c'est aussi un comédien qui peut dire tout le contraire. Voilà. Et lui, je pense qu'il écrit ses rôles, mais il n'écrit pas les mêmes
aujourd'hui,
rôles.
Aujourd'hui, il est blanc, demain, il est noir, et ainsi de suite. Ouais.
Voilà. Et donc, M. Johnson s'en est pris vigoureusement à M. Macron en disant qu'il n'en était pas question. Il fallait aller à la guerre jusqu'au bout et continuer aussi longtemps que possible.
C'est un farfelu, lui aussi, Johnson. Voilà.
Alors, c'est vrai que, comme tu dis, ce M. Johnson qui parle haut, qui fait des effets comme ça, guerrier, à une situation politique extrêmement fragile, puisqu'il a failli être mis à la porte de son poste de Premier ministre par son groupe de conservateurs, de députés. Bon, il a eu encore la confiance, mais ça a été un peu juste. Le parti conservateur Tory perd à peu près toutes les élections partielles auxquelles il se présente, y compris dans des circonscriptions où il était profondément implanté, et depuis longtemps. Donc M. Johnson est probablement assez près de la fin de son magistère. Bon, on verra bien. Alors, il peut faire des effets de voix, mais ça n'ira probablement pas beaucoup plus loin que ça. Mais c'est intéressant à noter parce que M. Johnson, en fait, quand il fait ça, il exprime le point de vue de la Grande-Bretagne, mais il explique aussi le point de vue anglo-saxon. C'est-à-dire, en fait, il est l'écho des positions des États-Unis, enfin des positions les plus dures. Pas des positions des journalistes, des positions les plus dures aux États-Unis. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la guerre en Europe, il faut affaiblir la Russie, qui est un adversaire stratégique, c'est écrit dans les documents officiels. Et donc, la guerre sert à ça, la guerre d'Ukraine sert à ça, à affaiblir la Russie. Alors, j'allais dire... Toute guerre affaiblie, mais le plus affaibli des deux en ce moment, c'est l'Ukraine, et pas du tout la Russie. Et d'ailleurs, je souhaite bonne chance, donc c'est un peu ironique, à l'Union européenne qui dit qu'elle a accepté la candidature de l'Ukraine. Il faut savoir qu'accepter un nouveau pays au sein de l'Union européenne, c'est accepter qu'il remplisse un certain nombre de conditions, mais toutes simples, sur le sérieux de l'administration, le respect des écrits, l'état des infrastructures, le téléphone, les transports, etc. Et l'Union européenne, si elle faisait rentrer l'Ukraine demain matin, aurait affaire à un pays en ruine qu'elle devrait reconstruire à ses frais. Alors, je veux très bien qu'on soit généreux avec les Ukrainiens qui ont beaucoup souffert, mais pourquoi les choisir eux, alors qu'ils ont compliqué plus les problèmes qu'autre chose, plutôt que d'autres qui ont autant besoin de notre sollicitude ?
L'Ukraine et la Moldavie.
Et la Moldavie.
Oui, c'est ce que je voulais.
Voilà, la Moldavie. Alors, la Moldavie, le problème
est moins. C'est vraiment...
La Moldavie, c'est 3 millions d'habitants. C'est une espèce de potager, disons. C'était le potager de l'Union soviétique. C'est un climat assez doux, proche de la mer Noire, mais ils n'y ont pas accès. Et donc, on les a pris comme ça parce qu'ils ont rendu de grands services. Il y a d'ailleurs une partie des immigrés ukrainiens qui ont fui leur pays qui sont partis par cette porte-là.
Oui. Hein?
Puisqu'il y a de fait, là, il y a une frontière commune entre la Moldavie et il y a même une frontière commune entre la Roumanie et l'Ukraine, tout en bas, le long de la mer Noire. Donc voilà. Alors, donc, l'Union européenne fait de la haute politique en disant on les accepte comme candidats. Il faut savoir, on a déjà eu l'occasion de dire qu'une candidature à l'Union européenne, c'est un dossier très très long qui prend des années, voire des dizaines d'années. Donc l'effet de propagande en disant « c'est nos amis, ils vont rentrer », c'est purement un effet de propagande.
Il y avait une propagande, la famine du monde.
Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est que, voilà. Fou, non, mais alors, bien entendu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui sont dans la misère? Et je termine avec M. Johnson parce qu'il s'est passé en Afrique un événement assez étonnant. C'est qu'il s'est tenu, alors c'est partie des sommets aussi, puisqu'il y a profusion de sommets ces dernières semaines, il s'est tenu un sommet du Commonwealth. Et ce sommet du Commonwealth a été l'occasion d'enregistrer l'adhésion de deux pays qui sont d'anciennes colonies de la France, d'une part le Togo et d'autre part le Gabon. Alors, effet de surprise, puisque on pensait, enfin non, on n'imaginait ni que la famille Bongo...
C'est à côté de la Côte d'Ivoire, le
oui,
Togo.
Oui. On ne pensait pas que les dirigeants du Gabon et du Togo étaient fâchés avec la France. Alors, ils doivent l'être peut-être pour je ne sais quelle raison, mais au fond, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'est-ce qu'ils ont acté plutôt? Ils ne l'ont pas dit. Qu'est-ce qu'ils ont acté en disant on va dans le Commonwealth? Et ils ont constaté un affaiblissement de l'influence française qui n'a pas commencé qu'avec Macron, mais qui est réel. Une espèce de rejet par les opinions publiques africaines du néocolonialisme français, donc qui vaut partout, au Burkina, au Mali, etc. Et ils se sont dit, ah ben là, c'est pas un... on va changer de cheval, en gros, mais ils passent d'un cheval colonialiste à un autre cheval colonialiste, c'est pas mieux.
Et pire.
Pire. Mmh. Et en fait, en se ralliant au Commonwealth, ils se rapprochent indirectement du bloc anglo-saxon, même assez directement. Donc, ils vont plutôt jouer dans la cour des États-Unis que dans la cour de la France. Et ça fait partie des politiques françaises, pas que celles de Macron, celles de Hollande, celles de Sarkozy et tout, qui sont des politiques qui sont maintenant insupportables, qui ont été vues pour ce qu'elles sont par une bonne partie des pays africains ex-colonisés français et qui donc ne passent plus. Donc, étrange choix, mais je l'interprète comme ça, c'est-à-dire que aller dans le Commonwealth, c'est dire on quitte la France, on va se réfugier entre les bras d'un autre colonisateur. Alors, on peut gloser, il y a eu des écrits là-dessus, des études assez intéressantes sur comment la Grande-Bretagne colonisait et comment la France colonisait. C'était effectivement, il y avait deux approches de méthode un peu différentes, mais un colonisateur reste un colonisateur. Hein. Ne coupons pas les cheveux en quatre.
Dans son conférence, Macron a parlé du Sénégal et certains pays là, qui, soi-disant, ils sont d'accord avec le G7.
Voilà. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit pour le G7. Non, non. Tu fais bien de le rappeler. Effectivement, le G7, c'est donc le bloc des riches occidentaux, en y ajoutant le Japon, qui est un riche, mais pas tellement occidental. Mais ça fait partie de la géopolitique bizarre.
Le Canada aussi.
Et le Canada,
ouais,
voilà.
Ouais, bon.
Et donc, ce qui se passe, c'est que le G7 avait invité... Alors, il y avait les réunions, vous les avez vues, ces sept messieurs autour de la table, avec leurs bras de chemise, parce qu'il faisait très chaud, paraît-il, dans les Alpes bavaroises.
Ils ont fait le
clown. Voilà. Mais ils avaient invité un certain nombre de gens sur lesquels ils veulent... avec lesquels, plutôt, ils veulent essayer de maintenir des relations relativement confiantes. Ils avaient invité, par exemple, l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, vous allez dire, quels sont les rapports? Alors, l'Indonésie, ça les tracasse. L'Indonésie, ça les tracasse, c'est un pays, le premier pays musulman du monde, c'est une dimension, c'est un pays qui court vers les 300 millions d'habitants, c'est une économie qui se développe très vite, c'est un pays qui a une extension géographique considérable, hein, puisque c'est des milliers d'îles, vous le savez, et qui est en train de faire un espèce de décollage économique, un peu comme la Chine l'a fait, mais avec du retard, et dans un régime politique différent, et qui est à la présidence du G20 cette année. Donc, il fait partie des 20 premières économies mondiales. Mmh. Et donc, l'Indonésie les tracasse. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ce pays, donc ancienne colonie hollandaise, qui a beaucoup, beaucoup changé depuis et qui est en train de commencer son décollage. économique et même politique qui commence à s'exprimer sur une série de sujets. Donc ils étaient invités, et encore quelques autres. Hein, donc le G7 essaie de se garder quelques amitiés chez les futurs riches, j'allais dire pour faire simple. Ce n'est pas du tout une critique sur le régime indonésien, mais les économies émergentes. Puisqu'ils savent que de toute façon, avec la Chine, bon, ce n'est pas la peine d'essayer. Avec la Russie non plus. L'Inde, manifestement, à toutes les occasions, manifeste qu'elle est grande et qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle n'a pas besoin qu'on lui donne des ordres, même s'il y a aussi des accrochages de temps en temps avec la Chine. Mais de toute façon, l'Inde n'est pas manipulable facilement, hein, on le sait. Et elle est très contente de ne pas l'être. C'était ça pour le G7 que je voulais dire et qui était important. Donc, les relations donc, de Macron et de Johnson sont mauvaises. Elles le resteront. J'allais dire qu'aujourd'hui, après les élections législatives françaises, Johnson et Macron sont aussi fragiles politiquement l'un que l'autre. Hein, et que donc, ils peuvent se faire plaisir en se traitant de noms d'oiseaux à longueur de temps. Ils sont très affaiblis tous les deux. Et ce qui importe, c'est de voir que le Brexit, on n'y a pas pensé à l'époque, mais c'est tout à fait clair. Alors ça faisait partie des objectifs qui n'étaient pas les objectifs de la population avec les histoires de visa, etc. Les objectifs, c'était que la Grande-Bretagne retrouve sa morgue impériale sans être liée par les décisions de l'Union européenne. Et là, c'est parfait. Ouais. Johnson illustre parfaitement ce tournant-là. C'est une espèce de retour aux sources de la morgue du mépris impérial.
Commonwealth.
Voilà. Et ce qui se fait par le biais du Commonwealth. C'était tout à fait clair. Et donc ça, c'est un effet du Brexit sur lequel on avait un peu passé et qui est, du point de vue de la politique internationale, un des principaux. C'est-à-dire que désormais, la Grande-Bretagne joue dans le camp américain contre l'Europe si c'est nécessaire, parce qu'elle n'est plus liée du tout par l'Union européenne et par ses mécanismes compliqués et ses décisions communes de politique étrangère. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc ce Commonwealth qui change, il y a pas mal de monde hein, dans le Commonwealth, il faut le savoir. Et il y a donc de nouveau.
Le pays avant le Gabon et le Togo, c'était le Rwanda en 2009.
Voilà. Alors le Rwanda, oui, tu fais bien de le rappeler parce que là ça mérite un petit clin d'œil sur le Rwanda. Ouais. Le Rwanda, donc, qui était un pays francophone, hein, ex-colonie belge, je le rappelle, comme le Burundi, son voisin. Le Rwanda, donc, sous la présidence de monsieur, je vais le dire... Kagame. Voilà. Sous la présidence de Kagame, était déjà assez proche des États-Unis, a fait un rapprochement avec le camp anglo-saxon. Et la seule réponse que la République française a trouvée à ce passage donc au concurrent, disons pas l'adversaire, mais c'est quand même un passage à la concurrence, passé dans le camp américain et anglo-saxon, abandonner la langue française, c'est qu'on a essayé de les retenir par les Basques en disant on confie à Madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda le poste de présidence de la francophonie. Alors c'est très amusant parce que dans le même temps, il n'y a plus aucune position, aucun traité, aucun écrit du gouvernement rwandais qui est en français. Tout est en anglais. Les dirigeants politiques, les ministres parlent tous anglais. Hein. Alors mais la francophonie, ça a été greffé là-dessus pour faire croire que la France avait encore une influence dans cette zone-là. C'est dit. J'en viens à parler d'un autre sommet, alors, puisque on a multiplié les sommets, qui est le sommet des BRICS. Alors, les BRICS. Alors, je rappelle, donc BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le S, c'est pour l'Afrique du Sud. Ça a été le dernier venu. Ils étaient d'abord quatre, et puis l'Afrique du Sud s'est rajoutée après. Les BRICS en sont à leur 16e année. Donc, c'est une création de l'année...
Il n'y a pas l'Iran
Non, ça, c'est dans l'Organisation de coopération de Shanghai.
Ah ouais, d'accord, Shanghai.
Alors, donc, les BRICS se constituent en 2006. Alors, c'est assez amusant de raconter l'histoire, puisqu'en fait, l'idée des BRICS de rassembler ces pays-là, donc considérés à l'époque, on est en 2006, comme des pays émergents, donc en pleine croissance économique, est une idée, non pas des dirigeants de ces quatre pays-là, mais d'un banquier américain, qui dit, mais au fond, il regarde l'évolution des produits, des industries, etc. Puis ils disent, là, il y a quatre pays qui sont en train de monter. Et s'ils se serrent les coudes, ça va avoir beaucoup d'effets. Hein. Et donc, ce monsieur s'appelle Jeffrey Sachs. Il lance l'idée de BRICS. Et l'idée plaît beaucoup aux dirigeants de ces quatre pays. Et les BRICS se constituent. Bon. Et après, donc, je crois que 3 ans plus tard, ils font venir l'Afrique du Sud pour qu'il y ait, pour avoir que les BRICS aient un pied sur le continent africain.
Africain, oui. Hein?
Alors, quand vous rassemblez ces 5 pays-là, vous êtes pas loin de 4 milliards d'habitants, enfin, presque la moitié, 40% de la population mondiale, c'est beaucoup, avec des économies qui deviennent puissantes. C'est le cas de la Chine, on le sait. L'Inde est en train d'avancer beaucoup aussi. La Russie a des ressources avec une population beaucoup plus petite. L'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé de tout le continent africain. On a là un, et le Brésil est quand même la 6e puissance économique mondiale, plus de 200 millions d'habitants. Et donc, c'est le poids lourd de l'Amérique latine, c'est tout à fait clair. Ces BRICS, donc, se sont mis à travailler ensemble. Ce n'est pas simplement des réunions de chefs d'État. La réunion des chefs d'État là, qui s'est tenue en vidéoconférence, d'ailleurs, hein, sous la présidence du président chinois, avait été précédée de réunions des ministres des Affaires étrangères. Il y a des réunions de hauts fonctionnaires, des réunions de parlementaires. Enfin, la mécanique fonctionne. On se connaît, on se parle, on échange. On a des projets communs. On a une banque commune. On a des financements communs sur des projets soutenus. Voilà. Il y a une vie. C'est-à-dire que Tous les observateurs de la politique internationale qui s'étonnent qu'au propos de l'affaire de l'Ukraine, le monde entier ne se soit pas rué en disant « Allez, je simplifie, mort à Poutine », en gros. Oh. Et ben, c'est qu'ils ont fait comme si toutes ces relations-là, celles nouées au sein des BRICS, celles nouées au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui, elle, a 22 ans maintenant, ça a créé des résultats. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont appris à travailler ensemble, qui ont échangé et qui ont voulu ne pas dépendre des décisions prises par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et le Pentagone. C'est ça, la logique. Alors, c'est pas simplement écrit sur un morceau de papier. C'est depuis presque 20 ans une série de pays qui ont dit maintenant on veut pouvoir être maître de notre destin. Alors ça avance doucement, ça avance beaucoup quand même. Et le groupe de G7 est assez surpris de voir les résultats. Et les résultats ne sont pas venus de rien. Il y a une vision stratégique qui dure depuis 2 décennies. Hein, et qui fait que la Chine, par exemple, quand elle a décidé de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce, sachez qu'elle allait s'exposer à tous les vents de la concurrence internationale et à tenter le jeu. Et elle a réussi son entrée de ce point de vue-là. Et donc, on a affaire à, effectivement, à un mouvement qui produit des effets concrets aujourd'hui. Quand c'était assez cocasse, à la limite, de voir la diplomatie des États-Unis, au moment où il y a eu le vote de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'histoire de l'Ukraine, de dire « mais il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent hein. ». Beaucoup de gens en Afrique, la majorité, quasiment tous les pays africains, les pays des BRICS, évidemment, le Brésil, le Pakistan, l'Inde, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu voir, ce n'était pas une divine surprise qui arrivait comme ça, qui sortait de rien du tout. C'est le résultat d'une construction volontaire, suivie, organisée, de création de ce qu'on appelle le monde multipolaire, c'est-à-dire d'une série de régimes. Il y a des différences très très importantes, on pourrait consacrer une émission là-dessus, entre le régime indien et le régime chinois. Il n'empêche qu'ils disent on est 2 grands pays émergents avec des capacités aujourd'hui industrielles, scientifiques, etc. Hein, et on a décidé que ce n'était pas un monsieur à Washington qui décide de notre avenir. Et la population chinoise, comme la population indienne, partage cette vue-là.
Et bientôt rejoint par l'Indonésie.
Et l'Indonésie est sur le chemin. L'Indonésie est sur le chemin. Et d'autres. Et le Mexique aussi est sur le même chemin. Le Mexique, qui, on le voit à travers ce qui s'est passé pour le sommet des Amériques il y a 15 jours, là, ouais. Le Mexique a commencé à dire qu'il n'avait pas peur des États-Unis. Moi, je résume ça très grossièrement. Mais au fond, c'était ça. Bon, ils sont juste là. Parce qu'on sait qu'il y a quand même 3000 km de frontières communes. On a affaire à des gens un peu agités et qui tirent volontiers. Je veux dire, il n'y a pas que des tireurs fous aux États-Unis, il y a aussi une armée folle qui tire sur toute la planète. Bon, ça fait partie du même dispositif.
D'ailleurs, Trump a fait un mur.
Voilà. Et donc, le Mexique commence à dire qu'il veut prendre, il veut décider par lui-même, même s'il y a encore une zone de libre-échange avec les États-Unis, sa voisine, et le Canada, mais il veut parler par lui-même. Et ce que, d'ailleurs, je le redis, puisque c'était intéressant de l'entendre, ce que l'ambassadeur de Cuba nous a dit ce matin, c'était qu'à ce sommet des Amériques, où évidemment les gouvernements qui n'avaient pas été invités par les États-Unis ne sont pas venus, hein, ni Cuba, ni le Nicaragua, ni le Venezuela, qui sont donc bons, enfin qui sont des ennemis. Voilà. Il a dit l'ensemble des délégations des pays donc, d'Amérique latine, tous ont parlé et ont demandé la levée de l'embargo de Cuba. C'est-à-dire, il a dit nous n'y étions pas, mais tout le monde a parlé de nous. hein, et en bien. C'est-à-dire que la totalité des latino-américains soutiennent Cuba, qui n'était pas invité. Bon, ça, c'est tout à fait important de s'en souvenir. Donc tous ces mouvements-là, c'est les mouvements vers le multipolarisme qui existent. Et bien entendu, l'espoir est que le dernier élément un peu inquiétant, qui est le président Bolsonaro au Brésil, perde les élections présidentielles à l'automne et soit remplacé par Lula si tout se passe bien. Ouais. Et à ce moment-là, effectivement, la physionomie change complètement, puisqu'on a le plus gros pays d'Amérique latine, la sixième puissance économique mondiale, qui prend ses distances avec les Américains. Ceci étant, je reviens sur les BRICS, M. Bolsonaro participe aux BRICS, c'est-à-dire que tout d'extrême droite qu'il est sur toute une série d'aspects, il a bien compris que l'intérêt de son pays, qui est désormais une grande puissance économique, c'était de se serrer les coudes et de ne pas être dépendant du grand frère d'Amérique du Nord. Et donc, là, le Brésil n'a pas rompu les liens avec les BRICS à aucun moment. Alors, parce que je pense là aussi, c'est dû au fait que M. Bolsonaro intervient dans le champ politique sur des aspects secondaires et spectaculaires, mais que sur les affaires économiques sérieuses, sur les affaires militaires et tout, il y a un appareil d'État qui est assez solide et qui a dit on ne fait pas cette bêtise, on est là dans un groupe qui est porteur, avec lesquels on a des intérêts communs, on ne s'en va pas. Parce qu'il y a des observateurs qui se sont posé la question. Bolsonaro arrive, il va quitter les BRICS. Et je pense qu'à Washington, ça aurait fait plaisir à beaucoup. Mais ça n'a pas marché. Mm-hmm. Parce que d'abord, je dis, M. Bolsonaro, fait pas la pluie et le beau temps. Et d'autre part, il y a quand même un appareil d'État, un appareil militaire très important au Brésil, qui réfléchit à la stratégie du pays et à son avenir. Voilà tout ce qui se met en place en ce moment sous nos yeux. Et je vous dis, c'est très important, j'insiste là-dessus, sur le fait qu'on a la continuité d'un processus historique qui a été entamé au début des années 2000 et qui maintenant porte des fruits qui, pour certains, sont des fruits inattendus, mais qui étaient souhaités. C'était bien ça qui était en cause.
Et je pense qu'à l'avenir, la communauté internationale actuelle changera de paysage. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale, c'est la France, les États-Unis, le Royaume-Uni.
Oui, oui. C'est d'ailleurs un abus de langage. Parce que qui a décidé qu'on appelait ces pays-là la communauté internationale? C'est la façon dont la radio et les télévisions officielles nous vendent la chose. Hein. Mais au fond, c'est quelques grands journaux, quelques grands ministres d'affaires étrangères. Mais au fond, il n'y a pas de communauté. Pourquoi? C'est alors le G7, je fais en gros le calcul, c'est 400 millions de personnes ou 450. Mais pourquoi ces messieurs, sous prétexte qu'aujourd'hui, ils sont les plus riches jusqu'à nouvel ordre, on peut en parler, qu'ils feraient la loi dans la totalité du monde. Hein. Donc moins d'un milliard d'habitants, en tout cas, hein, peut-être un demi-milliard, qui feraient la loi pour 7 milliards et demi d'autres. Mais les 7 milliards et demi d'autres ne sont pas des sous-développés, ne sont pas des imbéciles. Ils ont des enfants qu'ils ont avant à l'école, ils ont des ingénieurs, ils ont des chercheurs, et donc ils n'acceptent pas les leçons de ces arrogants, et ils les acceptent d'autant moins que l'arrogant en chef, quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, tue. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, aucun pays ne veut mourir. J'ai bien aimé le rappel donc, par l'ambassadeur de Cuba qui disait « Mais nous sommes pour la paix ». Je dis « Mais évidemment pour la paix ». Et il ajoutait, je reviens un peu sur l'émission, mais c'est pour vous donner envie de l'écouter, il ajoutait « La 30% du budget national du gouvernement cubain qui va à l'éducation et à la santé ». Alors je dis « Faisons-en autant, hein, et on en est... Voilà. » Mais ça a des résultats, c'est-à-dire que pendant des décennies, vous mettez 30% du budget national sur l'éducation et sur la santé, au bout d'un certain temps, vous avez une classe de producteurs, comme on dit, de scientifiques, d'ouvriers, de contremaîtres et tout, qui est en capacité de faire de grandes choses. Hein. Si vous traitez mal l'éducation, et si les gens ne sont pas soignés, vous avez une population pauvre qui ne peut pas produire grand-chose.
Et plus manipulable.
Plus manipulable, puisqu'elle est éduquée. Ouais. C'est peut-être le moment où j'en viens, alors où on fait passer une petite musique pour que je reprenne mon souffle. Et on va faire passer une petite chanson, puisqu'on a parlé d'impérialisme, de colonialisme. Tu dois... Alors, Sofiane a été relayée par, je ne sais pas ton prénom, mais tu vas nous le dire. Ah, on t'écoute ? On t'a pas entendu.
Non, non. Non. Est-ce que là vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Oui. Eh ben, je m'appelle Majdouline et je suis nouvelle salariée à Radio Galère pour voilà. les ateliers super. Radiophoniques.
Voilà, ben, bienvenue Majdouline, merci. Donc merci. La petite chanson est une chanson d'un rappeur burkinabé qu'on a commencé à écouter la semaine dernière, on l'a pas écouté en entier. Donc on l'écoute en entier.
Almami Kaji.
Nous ne sommes pas indépendants, nos terres sont leurs champs, nos richesses sont pour ces marchands. Ils commanditent des poches, place des hommes louches, entérinent les guerres civiles, font la promotion des débiles. Ils ont chassé Laurent Gbagbo, l'ont remplacé par Ado, pistonné Ali Bongo. C'est la France des jojos. La France et les États-Unis, le même Paris. Nous dominer à tout prix, nous mettons tapis. La France est...
Tant pis, bon, alors, c'était pour vous donner un avant-goût. Alors, on est un petit peu en Afrique et on va y rester pour un petit moment parce que j'ai découvert et j'ai essayé d'en faire profiter un certain nombre de lecteurs par le biais d'un bulletin dans un article dans un journal par Internet en langue espagnole qui est publié en Espagne mais qui est diffusé aussi dans le Maghreb concernant les événements du Maroc, en particulier autour des enclaves espagnoles. Vous savez qu'il y a sur le territoire du Maroc, donc du côté sud de la Méditerranée, deux enclaves historiques, donc celle de Ceuta et celle de Melilla. Voilà. Et il y a eu, donc ces derniers jours, ça a fait beaucoup de bruit dans les informations, une tentative donc de migrants africains, donc dits subsahariens, c'est comme ça qu'on les appelle. Soyons simples, il s'agit de noirs et pas de... c'est comme ça qu'on les distingue, qui ont tenté de rentrer dans ces deux enclaves, parce que quand vous êtes dans cette enclave, bien que vous soyez sur le sol de l'Afrique du Nord, hein, puisque vous êtes au sud de la Méditerranée, vous êtes en Espagne, et donc vous êtes dans l'Union européenne.
C'est,
bon,
ça.
Bon, c'est ça le jeu. Alors, c'est un jeu, oui, c'est un jeu qui dure depuis longtemps, puisque l'Espagne s'est organisée en conséquence, c'est-à-dire que ces deux enclaves, maintenant, sont cernées de barrières extrêmement hautes, 4 ou 5 mètres de hauteur avec des grillages, etc., sont protégés pour qu'il n'y ait pas un flux continu. Et il faut savoir que cette destinée... Alors, pour les populations qui fuient leur pays au sud du Sahel, on commence par le Mali, le Burkina, le Niger, enfin tout ça, vous le savez, il y a plusieurs itinéraires possibles. Dans tous les cas, il faut traverser à un moment donné ou à un autre le Sahara. Alors, ça peut passer par le Tchad et on arrive en Libye. Ça peut passer donc par le côté ouest, c'est plutôt le côté marocain, via la Mauritanie, etc. Ça ne passe pas par l'Algérie, parce que l'Algérie qui va très très profond au sein du Sahara, puisqu'elle a le territoire aujourd'hui le plus vaste du continent africain, ne laisse pas passer ce flux migratoire, parce qu'elle sait qu'on se met, enfin avec ces flux migratoires incontrôlés, on se met dans des situations politiques impossibles, très difficiles à gérer. Et donc c'est ou le côté est, côté libyen disons, ou le côté ouest. Le côté libyen, ça a été facilité par la destruction du régime libyen, ça on a bien compris, mais c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que l'arrivée via Ceuta et Melilla, c'est une arrivée, j'allais dire, relativement facile comparativement. Il ne faut pas trouver un bateau, il ne faut pas risquer sa vie sur des radeaux de fortune, etc. Il suffit de passer la frontière, la barrière. Bon. Ceci étant, du côté à la fois des migrants qui arrivent d'Afrique et du côté de la Guardia Civil espagnole, c'est la Guardia Civil, c'est une gendarmerie. C'est-à-dire c'est un corps militaire armé qui dépend de l'armée, pas de la milice de l'intérieur. Ce n'est pas une police, hein, c'est une gendarmerie comme on la connaît chez nous. Bon. Donc la Guardia Civil, qui est en charge de la protection des deux enclaves, a des consignes pour ne pas laisser l'invasion se faire. Tout ça donne lieu à un jeu qui a été décrit donc par ce journal, journal qui s'appelle Es Sahraoui, qui est un journal en espagnol, qui l'importe de...
Sahraoui.
Es Sahraoui.
Ouais, oui, Sahraoui. Oui.
Qui est très lu. Voilà,
Polisario,
qui est très lu dans les territoires du Polisario, et qui est en espagnol, donc qui est très lu en Espagne. Et vous savez que les relations entre l'Espagne et le Polisario et le Maroc sont compliquées, ouais. Puisqu'on en avait parlé au début de l'année avec Gilles Devers, le président du gouvernement espagnol a fait un faux pas, je pense, diplomatique. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il voulait plus, enfin, il ne s'intéressait plus au Polisario, que finalement, le Maroc, il allait le laisser envahir le Polisario.
Au moment qu'il fait l'autonomie.
Voilà. Et en fait, il a fait. Alors, d'après notre ami Gilles Devers, qui en parlait, qui est savant là-dessus, il s'agissait d'un propos un peu léger, puisque pas préparé du tout par une décision politique, une espèce de discours, ça. Un tweet qu'on fait par hasard, qui n'avait pas beaucoup de conséquences, puisque de toute façon, il y avait des positions et de l'ONU sur l'autodétermination des Sahraouis, ouais, hein, et de l'Union européenne aussi.
Bon. Le Parlement donc, espagnol.
Oui, et du Parlement, voilà. Ouais. Donc il s'était mis un peu à la marge de tout le monde. Bon. Et donc maintenant, le gouvernement espagnol est un peu plus méfiant par rapport à ça. Et donc la question donc, de l'invasion de ces deux enclaves le fait réagir et le met mal à l'aise. Alors, quel jeu joue le Maroc là au milieu? C'est là-dessus que je voulais m'arrêter, ouais, et là-dessus que je voulais en finir. Et l'article de ce journal que je commente est très intéressant parce qu'il commence par parler de Royal Air Maroc. Alors, surprise, parce que vous dites, les migrants qui arrivent par les moyens qu'ils trouvent n'arrivent pas avec un vol classique de Royal Air Maroc. On n'en sait rien. Mais ce que ce journaliste décrit, et c'est très très passionnant, c'est que dans les compagnies aériennes du Maghreb, donc de la façade, mettons à l'écart de la Libye, qui est un État détruit, mais entre la Tunisaire, entre Air Algérie et Royal Air Maroc, la compagnie royale marocaine, la compagnie d'État, est de très loin la compagnie qui dessert, pas tout à fait, mais 40 pays d'Afrique sur 50. C'est-à-dire que vous pouvez, depuis l'aéroport international de Rabat, aller à peu près partout en Afrique toutes les semaines. Et l'article s'interroge là-dessus, le journaliste s'interroge, mais ça veut dire quoi? Quels sont les rapports économiques entre le Maroc et l'ensemble du continent africain? Ce n'est pas juste des liaisons avec le Mali, c'est partout. Hein. C'est en Afrique orientale, c'est en Afrique du Sud, etc. Qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui explique, quelles sont les relations économiques qui justifient l'implication considérable de cette compagnie d'État marocaine à la différence de ses voisines algériennes ou tunisiennes? Et la conclusion à laquelle il arrive, et je vous la livre parce qu'elle est très très intéressante, c'est qu'il y a derrière ça une économie qui est l'économie de la drogue. Et je reviens, alors on a parlé récemment, il y a quelques semaines, de l'économie de la drogue concernant la Colombie. Hein, Colombie, donc premier producteur mondial de cocaïne, 90% des tonnages, et tout pays qui est très dépendant d'une culture si monopoliste qui domine le marché mondial d'une drogue est manifestement, j'allais dire, perturbé, abîmé dans sa moralité, dans son fonctionnement, par le fait qu'il maîtrise une drogue qui a un marché mondial, parce qu'il est au cœur d'un marché mondial d'un produit dangereux. Bon. Alors, le Maroc est la capitale, le premier producteur mondial de haschich, et là aussi, les chiffres sont tout à fait analogue à ceux de la Colombie, le Maroc produit 90% du haschich mondial. Bon. Alors le haschich, ça a l'avantage que, par rapport à la cocaïne, l'unité du consommateur, je ne sais pas en nombre de grammes, je ne suis pas un professionnel de la chose, mais combien de grammes il faut, mais enfin, disons que de toute façon, à l'unité de poids ou à l'unité de reniflage, hein, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'est un marché destiné plus à des pays pauvres, à des pays, à des populations moins aisées, etc. Bon. Et c'est un marché mondial là aussi, parce que ce que le journaliste souligne, c'est que cette drogue, bien sûr, il en vient en Europe, dans des pays riches, mais il en part beaucoup aussi, qui repart vers le reste de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous trouvez des populations avec cette addiction particulière, vous en trouverez tout autant dans l'Afrique subsaharienne, plus au sud encore de l'Afrique. Hein, le marché mondial du haschich part du Maroc. Et le journaliste dit, il y a probablement un lien, parce que quand vous êtes trafiquant de haschich, vous n'êtes pas à négocier sur le prix d'un billet d'avion pour aller à Bamako ou à Luanda ou à Kinshasa. Hein. C'est rien du tout. C'est du bricolage, c'est de l'économie quotidienne. C'est comme un ticket de bus, ça ne veut rien dire. Hein. Et donc, le lien qui est fait est très intéressant. Alors, il y aura peut-être des réactions. Moi, je trouve cet article passionnant parce qu'il explique bien que le phénomène migratoire, dont on voit, nous, on ne voit que l'aspect humanitaire pur, c'est-à-dire de populations qui sont mal dans leur pays et qui risquent leur vie pour aller trouver peut-être quelque chose de mieux ailleurs. Alors, ça peut arriver quelquefois. Tout le monde est très content que notre Ivoirienne soit à l'Assemblée nationale. Hein, mais c'est pas le parcours de tout le monde. Et donc, ça n'arrive pas dans tous les cas. Donc, c'est cette expression de misère qu'on subit dans son pays qui fait qu'on risque sa vie, surtout quand on est jeune, parce que les migrants, c'est des gens qui ont entre 15 et 20 ans, ou 25, disons pas plus. Hein, ce rejet de leur population, il est facilité par tout un business de la migration. Il y a des passeurs, il y a des fabricants de faux papiers, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Il y a des proxénètes, il y a des trafiquants d'organes, enfin de faux. Voilà. Tout ça, il y a un énorme business de la migration. C'est-à-dire que cette misère engendre beaucoup d'argent et de l'argent illégal. Et quand on a de l'argent illégal, on prend des risques, mais on en a beaucoup. Le trafic illégal, ça rapporte beaucoup. Donc, ce journal dit, en fait, là, on a le cœur d'un problème, c'est-à-dire le pays qui produit le plus de haschich au monde est un pays qui envoie du haschich dans le monde entier, qui donc nourrit une population de trafiquants, de proxénètes, de fabricants de faux papiers, etc. C'est un pays dangereux pour le reste de la communauté internationale. C'est ça la conclusion qui tire.
Il faut pas oublier qu'il y a eu des morts. Hein.
Oui, en plus, alors. Ouais, voilà. Alors, en plus, il ajoute. Ça, tout à fait. Alors, il ajoute qu'en fait, le Maroc joue un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'il sait très bien, parce qu'il sait très bien le niveau d'armement et de protection des deux enclaves de Ceuta et Melilla, il sait très bien les consignes qui sont données à la Guardia Civile, et il sait très bien que ces scandales-là vont faire parler en mal de l'Espagne. Et il sait très bien qu'il va pousser l'Espagne à dire « Eh bien, écoutez, moi, j'accueille. » Et ils vont tenir un raisonnement que d'autres, je pense à Erdogan, ont tenu. Ils vont aller à Bruxelles en disant « Donnez-moi de l'argent pour que je les accueille, moi. Hein ». Donc, jeu extrêmement pervers de la...
Oui, au lieu de lutter contre ce trafic.
Voilà, ouais. Voilà, au lieu de lutter. Alors, et ça renvoie à un problème beaucoup plus général qu'on a évoqué, c'est-à-dire pourquoi tous ces jeunes gens fuient, ou ces jeunes femmes fuient leur pays, ça aussi, c'est le produit du néocolonialisme, et qu'on soit dans la communauté CDEAO ou qu'on soit maintenant dans le Commonwealth, c'est absolument la même chose.
54 morts. Hein.
Oui, oui, donc extrême brutalité.
Ah oui, les militaires marocains.
Tout à fait.
Ils en ont tué, je crois, 24, et les Espagnols, 34.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'était une approche sur le business de l'immigration, qui est un truc sordide, hein, et qu'il faut qu'on prenne en considération. Il n'y a pas simplement une expression de la misère. Oui. Et j'ajoute que dans l'article, il est précisé qu'un tiers des migrants arrivés l'année dernière aux Espagnols, au Maroc, étaient des enseignants. C'est-à-dire que c'est des gens formés qui fuient leur pays, qui ont été payés par leur pays et qui le fuient. Et donc, quand vous n'avez plus d'enseignants, vous êtes dans un état dramatique.
Qui le fuient parce qu'ils ne sont pas payés.
Je voudrais simplement souhaiter bon anniversaire à Jade. Aujourd'hui, elle a 14 ans.
C'est sa petite
et
fille.
Et beaucoup de bonheur. Et j'espère que tu seras une fille magnifique.
Bon anniversaire, Jade.
Bon anniversaire, Jade. Oh. Merci.